Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Clémence. Vous savez qu'on a un podcast sur les séries télé? Ça s'appelle We Love Series et ça sort tous les mardis. On y parle de séries récentes ou de séries cultes, une série à la fois. Et comme on est très bavard, on y consacre chaque fois plusieurs épisodes. Vous êtes fan de Game of Thrones, The Office, Kaamelott ou encore Les Simpsons? Notez bien, We Love Series, c'est un épisode tous les mardis. Dispo sur Deezer, Spotify, YouTube et toutes les bonnes applis de podcast.
Mon copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit
« T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne !»
Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde.
Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur.
Elle nous connaît dans les coins, la frangine.
Salut, c'est Clémence. Bienvenue dans Sale Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Tous les mercredis, on se retrouve pour vous parler de la sortie de la semaine. On la décortique, on l'analyse, on la traite en profondeur. Alors forcément, pour en parler de la façon la plus détaillée possible, on va spoiler, soyez prévenus. Et si vous n'aimez pas ça, on vous recommande d'aller d'abord voir le film et de nous écouter ensuite. Derrière les micros, une bande de chroniqueurs prêts à chasser les meilleurs films pour vous. Bon, parfois les pires aussi, hein. Mais ce qui est sûr, c'est que jamais, au grand jamais, ils ne croisent les effluves. J'ai le plaisir de retrouver Stéphane.
Salut Clémence.
Et Rafik.
Salut Clémence.
À la technique, vous ne le voyez pas, vous ne l'entendez pas. Et pourtant, tel un spectre, sa présence plane sur tous les podcasts de Capture Mag. Salut Alain.
Salut.
Et on dit merci à Latex pour l'habillage sonore. Cette émission existe grâce à tous les auditeurs et les auditrices qui nous soutiennent. Merci à toutes et à tous pour vos contributions. Si vous aussi, vous voulez nous aider à grandir et à développer de nouveaux programmes, eh bien, n'attendez plus, rendez-vous sur patreon.com, mot-clé Capture Mag. Cette semaine, Who You Gonna Call? Eh oui, ils sont de retour avec SOS Fantôme, l'héritage. Sauf que, comme le titre l'indique, c'est une nouvelle génération de chasseurs d'ectoplasmes, spectres et autres apparitions fantomatiques qui vont prendre la relève. Alors, on oublie tout de suite le reboot sorti en 2016. Ici, on a affaire à une suite directe du deuxième film de la franchise. Une suite directe, mais qui se déroule 31 ans plus tard. On y découvre Phoebe et Trevor, deux ados qui emménagent avec leur maman solo au fin fond de l'Oklahoma. Ils sont installés dans la maison de leur grand-père récemment décédé et en fouillant les lieux, ils tombent sur, devinez quoi ? Du matériel de chasseurs de fantômes, ce qui tombe plutôt pas mal vu que leur petite bourgade de campagne va devenir le théâtre d'événements pour le moins surnaturels. Derrière la caméra, là aussi on peut parler d'héritage, et oui, c'est Jason Reitman aux commandes, et c'est à son papa, Ivan, qu'on doit les deux premiers volets de la saga. Mais l'idée de cette suite n'est pas nouvelle. Dès les années 90, Dan Aykroyd écrit le script de Ghostbusters 3, Hellbent. L'histoire est différente, mais il y a déjà question de jeunes chasseurs de fantômes qui doivent y faire donc leur apparition. Le projet traîne, et finalement, en 2010, Ivan Reitman annonce qu'il sera en charge de la réalisation. Mais le film reste en développement plusieurs années, et puis la mort d'Harold Ramis vient encore compliquer les choses. En fin de compte, Ivan Reitman ne garde que la casquette de producteur, et c'est donc son fils Jason qui reprend le flambeau à la réalisation. Après une sortie repoussée à cause du Covid-19, le film débarque dans les salles américaines le 19 novembre et entre directement en tête du box-office. Pour son premier week-end d'exploitation, il totalise 44 millions de dollars et dépasse largement les prévisions. En France, SOS Fantôme l'héritage est sorti ce 1er décembre. Alors, puisqu'on est dans sale temps, c'est quoi votre météo perso pour ce film, Rafik ?
Ah, c'est plus on va le voir, on va pas le voir ?
Non, maintenant on fait changé. La météo, donc... Qu'est-ce que tu en penses ?
Rafik ne nous écoute pas. Tu viens de découvrir que...
Vous êtes sur quelle chaîne ?
Voilà.
Donc il faut que je donne une météo, c'est-à-dire éclaircie, temps grisâtre, etc.
Temps à l'orage, chute de neige.
Il y a des éclaircies occasionnelles quand même.
Éclaircies occasionnelles, très bien. Stéphane.
Je sais pas, anticyclone, pour commencer, un petit anticyclone qui est totalement ruiné par des trombes de nostalgie dégoulinantes.
Très bien. Bon, un sale temps pour un film encore. Vous allez nous expliquer pourquoi. Alors, Rafik, ça fait longtemps que t'es pas venu, donc on va dire que c'est toi qui t'y colle.
Oui. Alors, pourquoi quelques éclaircies occasionnelles? En fait, je vais tenter de séparer les intentions de l'exécution, parce que l'exécution, pour moi, c'est vraiment le point faible du film. Donc les intentions, elles, me semblent au départ relativement honnêtes, à défaut d'être pleines et entières, au sens où je compare à ce qui se fait ces 10 dernières années par rapport à tout ce qui est de l'ordre du reboot, du retour incessant aux années 80. Je pense que les auditeurs savent ce qu'on pense de cette vague nostalgique et de la façon avec laquelle elle a été traitée dans le cinéma. Il se trouve qu'il y a eu un film durant toute cette grande période qui a été un digne héritier des années 80 et qui a été complètement passé sous silence. Presque personne ne l'a vu. Ce film, c'est Monster House. Qui était réalisé par un certain Gilles Kenan, qui est co-scénariste de ce Ghostbusters. Et Kenan, à défaut d'être le plus talentueux des réalisateurs ou même le plus talentueux des scénaristes, c'est quelqu'un qui reconnaît ce qui a fait l'identité de ses productions des années 80 profondément. C'est un peu l'anti Stranger Things quelque part, quoi. Et il injecte, je trouve, un petit peu de ça dans ce film. C'est-à-dire, oui, on réutilise les vieux pots que les fans sont venus consommer, mais au lieu de faire de l'adoration au sens religieux du terme, on fait plus état de respect. Donc il y a des éléments typique des années 80 qui sont mis en scène dans ce film, mais avec un minimum de respect pour la matière et notamment le personnage principal. Donc parce qu'il y en a un qui se détache, hein, c'est celui qui est joué par la petite gamine qui était déjà très bien dans le film Tonya, où elle jouait Tonya Harding jeune, qui joue une espèce de gamine un peu nerd, déjà déphasée dans sa vie urbaine, qui en plus se sent encore plus déphasée arrivée dans cette campagne, pas du tout en connexion avec sa mère, avec personne, et qui en fait va se révéler dans cette histoire, puisqu'elle va se découvrir être la fille de Spengler, donc la petite fille du personnage qui était joué par Harold Ramis dans le film original, et ça va lui donner tout d'un coup un purpose, une raison d'être, quoi. Et ce personnage est bien traité. On triche pas avec son côté un peu aspergé, un peu geek boutonneuse, larguée par le monde. On triche pas trop avec les angoisses qui la travaillent.
Elle le dit, elle l'assume elle-même. Hein. Mm. Elle dit socialement c'est compliqué,
oui, c'est,
la science qui m'intéresse.
Ouais. Mais on te construit un personnage avec ça. On se contente pas juste de le poser et tu te démerdes. On le construit. Donc ça, pour moi, c'était plutôt respectueux. On lui colle dans les pattes un autre nerd qui est ce petit gamin asiatique. J'ai plus le nom du comédien. Je suis désolé.
Non, le personnage c'est Podcast.
Comment ?
Le personnage
qui joue un personnage qui se fait surnommer Podcast, et pareil, lui aussi qui est complètement à la ramasse, et un personnage pas inédit dans le cinéma, mais inédit au sens qu'il ressemble pas aux autres, quoi, où tout d'un coup tu te dis mais c'est qui ce môme qui fait ses podcasts tout seul, qu'il est le seul à écouter probablement, etc. Donc enfin voilà, c'est des personnages qu'effectivement on aurait pu trouver dans des films des années 80, écrits de cette façon-là et interprétés de cette façon-là.
C'est donc Logan Kim, le comédien.
Merci. Alors sur les noms des comédiens, ouais, il va falloir m'aider parce que je suis vraiment à la ramasse.
Il faut savoir qu'on a retiré le l'ordinateur de Rafik.
Mais moi, je suis nul avec les noms et Barnabé fait bien de le rappeler parce que vraiment, je suis...
Mais t'inquiète, j'ai les antisèches. Jamais.
Donc, ce qui est plaisant dans le film, voilà, c'est que oui, effectivement, on va faire du 80's porn, mais on va le faire avec l'idée de prendre ce qui faisait vraiment la matière de ces films-là plutôt que l'apparence. À ce niveau-là, je pense que le film donne quelques bons moments, et je reviendrai d'ailleurs sur quelques scènes qui, pour moi, fonctionnent à ce titre-là. Après, il y a le problème de l'exécution, c'est-à-dire de la mise en scène. Le premier, alors je vais faire mon mea culpa tout de suite, hein, mon coming out, appelez ça comme vous voulez. Moi, je suis vieux, donc j'ai vu Ghostbusters à sa sortie. Et c'est pas un film sur lequel je délirais à l'époque, vu que je sortais d'une séance de Indiana Jones et la dernière croisade et d'une autre de Gremlins. Enfin, je veux dire, on avait un peu l'embarras du choix à cette époque-là.
Indiana Jones et le Temple Maudit.
Et le Temple Maudit, merci. Merci Barnabé.
Il arrive même pas, il arrive même pas à se rappeler des types de films, quoi. On en est là, quoi.
Non, mais.
C'est-à-dire s'il est vieux.
Je sens que Malcolm va s'en donner à cœur joie sur ce podcast. Donc voilà, on passait d'Indiana Jones à Gremlins, qui était vraiment les parangons, à mes yeux, hein, du cinéma fantastique de l'époque. Et du coup, Ghostbusters, quand il est sorti, c'était plus ce nouveau cinéma fantastique expliqué à tes grands-parents. C'est-à-dire, c'est un film qui, par sa structure scénaristique, était une porte d'entrée de tout un public qui comprenait pas ce qui se passait au niveau du cinéma des années 80, et on le prenait par la main en prenant des choses qu'il aimait bien, qui étaient en gros la comédie à la National Lampoon's, qui était voilà le genre de comédie qui marchait bien à l'époque, notamment aux États-Unis, dans lesquelles justement on voyait déjà des Bill Murray et compagnie, et en y injectant tout ce délire fantastique nouveau pour l'époque, mais en le prenant au sérieux. C'est-à-dire que ce qui m'avait surpris à l'époque, c'est que je suis allé voir le film en me disant bon, ils vont se foutre de la gueule de tout ce que j'aime, mais non, en fait les séquences fantastiques avec des créatures, avec des effets spéciaux étaient faites comme si elles étaient faites par les autres films que j'aimais bien. Bon, mais par contre, Ivan Reitman, c'était pas Joe Dante ou Steven Spielberg. Et
c'est quand même son film le plus soigné.
Oui, mais alors justement, ce serait bien d'expliquer pourquoi c'était son film, pourquoi le film était soigné. Et d'ailleurs, c'est une des choses qu'on retrouve pas dans celui-ci. C'est que c'est un film qui, dans sa carrière, est un projet cher, en fait, déjà, qui sur lequel il était relativement inquiet. Et du coup, il s'est beaucoup reposé aussi sur son équipe technique. Et comme c'était à l'époque du practical effect, c'est-à-dire que quand il construisait les décors ou même des créatures, elles étaient bel et bien sur le plateau, il y avait une tendance à vouloir les mettre en valeur et les mettre en avant. Du coup, hein, il y avait un soin réel qui était amené au cadrage, à l'éclairage, voilà, et qui donnait de la texture. Bref, tout ça pour dire que c'était un peu ça le rôle du film à l'époque. Je voulais insister sur cette idée de porte d'entrée vers un cinéma qui échappe à une partie du public. Donc c'est devenu une institution avec le temps et des générations qu'on grandit avec. Et on arrive à ce film aujourd'hui qui, bon, il y a cet aspect nostalgique, mais du coup, il en profite pas pour ouvrir à nouveau des portes, c'est-à-dire amener un public massif et large à un cinéma, peut-être un cinéma fantastique contemporain, que ce public ne connaît pas ou peu ou qui lui ferait peur, tu vois, je sais pas, j'en sais rien, ouvrir au peut-être un cinéma asiatique qui est peu consommé par le grand public occidental, il n'en profite pas pour faire ça. Ça c'est le premier point. Et l'autre point, c'est que moi je précise tout de suite, je suis un grand amateur d'images de synthèse et de nouvelles technologies, mais il y a un problème manifeste sur ces nouvelles technologies, c'est que elles font en sorte que les réalisateurs ont tendance à se reposer un peu trop dessus, à se dire en gros on verra en post-production, et du coup il y a peu d'efforts qui est fait par rapport au cadrage. Et la façon avec laquelle ce film est mis en scène, à plus d'un titre, moi j'ai l'impression de voir du filmage Netflix par moment. C'est vraiment des compositions triangulaires, à ligne de force simple, un personnage là, un autre là, et puis un truc bien évident dans le décor au milieu, quoi.
À plus forte raison que le film, faut être honnête, il est vendu en tout cas SOS Fantôme à la sauce Stranger Things, hein. C'est-à-dire que en gros, ce que j'aimais bien appeler les Spielberg Notes, en fait, c'est-à-dire des gamins en fait qui refont les trucs à la Amblin, des trucs à la Spielberg, et là c'est la même chose en fait, c'est des gamins qui sont super doués en fait pour faire ce que des adultes faisaient dans le film original, quoi. Et du coup, bon, c'est un autre questionnement, mais en tout cas, le film est clairement vendu sur ça. C'est aussi ça, hein, faut être honnête, hein, parce que même s'il y a des adultes dans le film, on va en parler, les rôles, ils sont quand même assez, assez ingrats. Moi, je trouve, hein, surtout le rôle de
Paul. C'est les enfants qui sont les vedettes.
Totalement. Et en fait, le truc, c'est que voilà, c'est après Jason Reitman, c'est, mais comme son père, hein, d'ailleurs, hein, c'est vrai. C'est pas un très bon réalisateur en vrai, hein. Il faut remettre ça sur le truc. C'est...
Oui, mais justement sur le truc avec Ivan Reitman, si tu regardes le premier, si tu regardes Ghostbusters 84, quand tu passes d'une scène ces scènes de pure comédie sont filmées le plus platement du monde, basiquement, et dès qu'il y a un effet spécial, tout d'un coup, il y a de la profondeur de champ, du cadre, etc. Parce que justement, ils étaient obligés de le faire pour rentabiliser leur investissement. Alors qu'aujourd'hui, tu peux tout filmer de la même façon, puisque beaucoup d'effets seront incrustés en post-prod. Et c'est là où tu vois finalement la flemme apparaître. Il y a peu de texture, en fait, dans le trop peu, en tout cas.
Alors pourtant, on a j'ai une citation de l'équipe qui s'est occupée des effets spéciaux numériques, hein, et qui disait que c'était hors de question pour eux de faire des effets comme on les fait aujourd'hui, et que justement en 84 on utilisait des loupes, des optiques, de l'animation manuelle, et notre boulot aura consisté sur ce film à faire en sorte que nos effets numériques ressemblent à ces techniques.
Oui, alors il y a quelques practical effects effectivement, notamment avec les cerbères sur certains plans qui sont pas incrustés en post-prod, mais qui sont bel et bien sur le plateau, c'est des créatures animatronique, mais c'est vraiment pour un plan par-dessus l'épaule, quoi, si tu veux. Dans les séquences dites d'action, par exemple, on retrouve les mêmes artifices actuels. Et encore une fois, moi, je suis partisan, hein, de ces technologies-là. C'est juste que c'est le filmage qui me pose problème. C'est-à-dire que tout d'un coup, il n'y a plus de filmage, en fait. Ce qui devrait être la première séquence vraiment qui t'agrippe dans le film, qui est celle où ils utilisent la voiture pour la première fois pour chasser ce fantôme qui est basiquement le même
manche-tout
que dans le film original. Ça devrait être un moment de joie chorégraphique, et finalement tu suis pas trop, enfin tu comprends vaguement ce qui se passe, mais c'est pas prenant, quoi. Ça reste une voiture qui file plus ou moins en ligne droite sur toute la séquence, quoi, si tu veux. Il y a pas d'enjeu spatial, il y a pas de travail de montage, enfin il y a pas cet effort qui est consenti, quoi.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Oui, alors ça, je suis d'accord. Et puis en plus, c'est un film de toute façon qui manque clairement de fun, hein. Pour moi, c'est le problème. Alors moi, pour le coup, contrairement à Rafik, j'ai un très très gros attachement au premier SOS Fantômes, mais vraiment le premier, que j'ai vu aussi en salle à l'époque. J'avais 8 ans, et je n'avais pas vu Indiana Jones et le Temple Maudit à l'époque en salle, je n'avais pas vu Gremlins, mais j'avais adoré SOS Fantômes, et c'est un film qui reste, mine de rien, et je vais m'expliquer, je pense pas par nostalgie, c'est vraiment un film qui reste en fait pour des raisons qualitatives pour moi. C'est vraiment un film que je trouve déjà très bien écrit, c'est-à-dire parce qu'il faut savoir que SOS Fantômes, à la base, c'est une idée de Dan Aykroyd, ils sont partis dans tous les sens. Et en sous-main, Harold Ramis, qui était peut-être pas encore le réalisateur d'Un jour sans fin, mais qui est quand même déjà quelqu'un, en fait, qui avait un vrai talent pour l'écriture et un vrai talent, en fait, pour resserrer les concepts, en fait, a décidé, leur a dit, mais non, en fait, on va faire un film contemporain, on va faire un film une comédie avec des blue collars, quoi, c'est-à-dire des prolos, même si c'est pas des prolos proprement, parce que c'est scientifique, il fallait justifier tout leur savoir, en fait, sur l'ectoplasme, etc., etc., en fait, ça reste quand même des personnages qui sont présentés comme des prolos, quoi, c'est-à-dire des mecs qui mettent des tenues, en fait, de dératiseurs pour aller, chasser les fantômes, quoi. Ça fonctionne très bien dans l'univers de New York, moi je trouve que ça joue très très bien sur les forces de chacun des acteurs comiques du Saturday Night Live, c'est-à-dire Bill Murray en l'occurrence et Dan Aykroyd, parce que Harold Ramis ne vient pas de là, ça il faut le souligner. Et comment s'appelle l'acteur,
Ernie Hudson,
voilà, lui c'est pas du tout un acteur comique à la base. Et par exemple, un des attachements que j'ai, que je trouve hyper touchant, hyper pertinent, le personnage dont on a parlé là, le Mangetout, la Slimer, en fait, c'est une référence ouverte et assumée à John Belushi, qui était mort 2 ans avant la sortie du film et qui devait jouer un des SOS fantômes, en fait, un des membres de l'équipe. Et du coup, bah, en fait, leur hommage, c'est de l'en faire un fantôme absolument dégueulasse dans le film, en fait, boulimique, parce qu'en fait, c'était la persona, en fait, comique de John Belushi. Il y a cette scène dans Animal House, qui est Animal House, c'est un film de John Landis, American College en français. C'est pas un film génial.
C'est un National Lampoon's, voilà. Justement, qui a été un carton monstrueux aux États-Unis.
Mais il y a une scène hilarante, en fait, dedans, qui est celle, en fait, où le personnage, parce que ça se passe dans un collège, donc, le personnage de John Belushi se met à attraper des plats et les bouffer, en fait, au fur et à mesure qu'il avance dans le self. En fait, et du coup, pour
il
pas
mange,
les payer.
Il mange tout le self.
Il avale tout, en fait, et c'est totalement de l'impro, et en fait, ça fonctionne très bien, c'est une référence à ça, en fait, parce que c'est une comédie qui est très connue aux États-Unis. J'insiste un petit peu sur ça pour une raison très spécifique, c'est que, comme l'a dit Rafik, moi j'aime beaucoup effectivement le personnage de la petite fille. Je trouve que c'est un personnage, je trouve que c'est important de voir un personnage intelligent dans un film qui ne l'est pas forcément, à mon sens, mais en tout cas, elle, c'est bien de voir un personnage comme ça, de voir un personnage qui s'en sort, qui n'est pas stupide, qui fonctionne par rapport à sa propre intelligence, même si elle a des ratés sociaux, bah, tu la trouves vraiment attachante parce qu'elle a en fait ce truc justement où elle se détache de tout le reste, quoi. Et comme c'est la personne qui te permet de suivre ce qui va se passer, bah, tu te dis, je veux voir où ça va, ça c'est clair. Il y a aussi l'idée que... moi, j'ai beau avoir un attachement à SOS Fantôme, je me rappelle déjà qu'en étant allé voir le 2, à l'époque, qui est arrivé 5 ans après, que j'attendais énormément à cause du premier, en fait, je me rappelle déjà, à l'âge de 12-13 ans, avoir été extrêmement déçu, en fait, par le film. Parce que même s'il y avait quelques bonnes idées, il y a notamment l'idée que en fait, c'est un fluide, en fait,
le slime qui coule dans les égouts.
Dans les égouts sous New York, en fait, est nourri par la médiocrité, la méchanceté des New Yorkais, en fait, légendaire, quoi. Et je trouvais que c'était une très bonne idée, je trouvais qu'il y avait un truc, mais je pense que le film joue pas de ça. Et puis surtout, déjà à l'époque, en 89, je me disais, putain, mais arrêtez d'essayer de singer SOS Fantôme, proposer quelque chose de nouveau, quoi. Et c'est exactement le problème que j'ai avec SOS Fantôme l'héritage, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a passé le fait que effectivement ça se passe pas à Manhattan, donc en fait t'as une vista différente, t'as un visuel différent, etc., etc., c'est pas parce que c'est différent que ça apporte fondamentalement quelque chose de nouveau, parce que le problème, c'est qu'il y a un moment donné, et c'est Jason Reitman qui l'assume, hein. Nous, il faut savoir qu'on l'a vu en projection de presse, et qu'avant, je sais pas si vous avez eu ça vous, mais avant la projection de presse, il y a un petit message que je pense les spectateurs n'auront pas en salle, mais il y a un petit message en fait de Jason Reitman qui dit, vous allez voir, on a mis des historiques partout, à vous de voir si vous allez les reconnaître. Et franchement, t'as vu SOS Fantôme 2 fois, tu les reconnais tous, quoi. C'est-à-dire que t'as le sigle de SOS Fantôme qui est plastronné sur les villes, sur les murs des villes, mais en grand, hein. Tu vois, t'as les marshmallow puffs en fait qui reviennent dans une scène où t'as l'impression que c'est du placement de produit pur et dur, quoi. T'as donc les cerbères dont t'as parlé, Rafik.
C'est pas des easter eggs, mais non, effectivement, quand la gamine déboule dans le laboratoire secret de son grand-père, effectivement, t'as plein de trucs qui correspondent, par exemple, à une réplique qui balançait dans le film quand il dit qu'il collectionne. Le fungus, etc. Bon, bah, tu les vois, en fait. Ils sont installés là. Bon.
Tous les comédiens qui sont vivants reviennent. Mmh. C'est-à-dire de Bill Murray, mais c'était attendu, à Dan Aykroyd, en passant par Ernie Hudson, mais aussi la secrétaire Janine, en fait, qui
Annie
revient.
Potts.
Voilà, Annie Potts, quoi. Qui est d'ailleurs, en fait, moi, je trouve, c'est limite le caméo le moins gênant, je trouve, du film, parce qu'elle est... bon, déjà, parce qu'on la voit beaucoup moins que les autres, donc
Qu'elle avait créé un personnage, c'est pas du tout sa voix, c'est pas du tout sa façon d'être, c'est un vrai personnage qu'elle a créé, donc du coup, elle l'a retrouvé. Mais au-delà de ça, en fait, c'est marrant ce que tu dis, parce que j'ai l'impression que c'est presque au moment où le SOS Fantôme débute, que le film perd de son intérêt. Il y a une mise en place qui est plutôt correcte, justement parce que tu suis cette gamine. Alors, il faut bien préciser que c'est vraiment elle le point central, parce que les autres sont pas aidés, effectivement. Mmh. Que ce soit sa mère ou son grand frère, c'est des personnages un petit peu plaqués là, alors la mère, elle a un conflit personnel, mais il se développe pas du tout. Il faut attendre quasiment la fin du film.
Elle a plus ou moins été abandonnée par son père.
Elle reste à l'arrière-plan, mais c'est pas le sujet.
Pas le sujet. C'est un film familial. Ça se veut être un film sur une famille. Et d'ailleurs, en fait, Jason Reitman l'assume comme ça, puisqu'il dit lui-même que, en fait, il se sentait le besoin. C'est un film personnel pour lui, parce que, en fait, il prend les rênes de son père et il le dit ouvertement que ils ont pas forcément eu une relation toujours fusionnelle ou toujours facile, quoi. En tout cas très conflictuelle, quoi. Et je pense que quand t'es réalisateur et que tu grandis chez un réalisateur et que tu deviens réalisateur toi-même et que t'es aussi primé aux Oscars et patati et patata, t'as tout un tas de trucs, en fait, où se développe, je pense, pas une...
Bah, il s'en défiait même, puisque on lui avait proposé, on lui avait déjà parlé des SOS Fantômes il y a des années de ça, et il disait, en gros, jamais de la vie. Et puis surtout, il insistait en disant, si je faisais un SOS Fantômes, ça serait le plus chiant du monde, ça serait des mecs en train de parler de fantômes.
Et c'est pas faux, parce qu'en fait le problème, c'est que c'est quelqu'un, moi je trouve, qui a un vrai problème de rythme, surtout, c'est ça mon problème. C'est-à-dire, quand tu parlais de la scène d'action en soi, c'est que la scène, elle est pas fun en soi, parce que justement c'est pas quelqu'un qui la filme comme une scène de comédie. Ça, il aurait fallu aussi à un moment donné pas que faire une scène d'action à effets spéciaux, mais une vraie scène de comédie où d'un seul coup, quand ils découvrent que la bagnole, en fait, elle leur permet de sortir, en fait, sur le côté pour avoir une chaise en fait qui est rétractable et qui se retrouve dehors pour pouvoir chasser, ça devrait être des moments rigolos. Des trucs, en fait, où tu rigoles parce qu'ils sont surpris par le truc et toi t'es surpris avec eux, c'est une vraie découverte, quoi. Mmh. C'est pas du tout le cas, en fait. Et effectivement, ce fantôme, il ressemble à Slimer, mais pour le coup, il n'y a pas de logique à part le fait de se référer au premier film. C'est pour ça que j'ai insisté sur l'origine du Slimer dans le premier SOS Fantôme. Et c'est ce que je voulais dire, en fait, aussi par rapport à la logique de nostalgie, c'est que pour moi, mon problème, c'est pas, en fait, que des petits easter eggs dans un coin où, en fait, ça, à la limite, si tu tournes le regard, tu les vois pas. C'est-à-dire que, en gros, quand ils utilisent un personnage comme le personnage de Paul Rudd, qui est quand même un personnage hyper ingrat dans le film, parce que Paul Rudd, je tiens à le signaler quand même, parce que c'est assez rigolo. Moi, j'aime beaucoup Paul Rudd, hein. Je trouve que c'est un mec qui a une énorme sympathie, un capital sympathie qui ressort très très facilement. Il vient d'être nommé... homme le plus sexy de l'année par People, quoi. Et alors, quand tu vois le rôle, tu te dis, les mecs de People, ils ont pas vu le film. Parce que, en fait, il joue Rick Moranis. C'est-à-dire, littéralement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qui arrive à Rick Moranis, tu es le maître des clés, tu vois, je suis le maître des clés, tu vois, présente-moi ta... Enfin, je sais plus c'était quoi le truc, présente-moi ta voûte. Enfin, bref, peu importe. C'était les dialogues, enfin, tous des trucs, en fait, des innuendos sexuels.
Non, mais même ce personnage-là, il commence à être écrit jusqu'à ce que le SOS Fantôme démarre. C'est-à-dire que dans les premières séquences, il nous est présenté comme un prof qu'on a rien à foutre de ses élèves, qu'il est trop
nostalgique, des années 80, puisqu'il leur fait des
cassettes. Il est fou devant des films d'horreur.
Des films d'horreur pour pas les avoir sur le dos, etc. Qui tout d'un coup, voilà, trouve cette gamine qui comprend son métier. Enfin, il y a un truc, il se passe quelque chose avec ce perso. Il ressemble à un personnage des années 80, mais j'ai presque l'impression de voir le prof de classe de Gremlins par moment, ouais, tu vois. Bon, et effectivement, dès l'instant où l'intrigue s'est enclenchée, en gros, l'âme de Gozer s'est éveillée. Alors là, ça, il devient un pur accessoire qui est totalement...
Le méchant, c'est Gozer. C'est-à-dire, le méchant, c'est l'entité du premier film, encore. Et là, le truc, c'est que... Donc, il y a tous ces trucs qui se convergent, en fait, vers l'idée de faire SOS Fantôme, jusqu'au point, moi, de rupture, et c'est là où j'ai vraiment lâché le film, hein, c'est-à-dire que... c'est pour ça que je parle d'intempéries nostalgiques, quoi. C'est que vraiment, en fait, pour moi, la façon... de ramener, et je spoil, hein, donc en fait on le précise, quoi, la façon de ramener et de rendre hommage à Harold Ramis, pour le coup, et je trouve extrêmement, c'est-à-dire ça marche peut-être deux minutes, une minute en fait, la première minute,
on dirait une apparition, 20 secondes, mais
voilà,
mais
parce que t'es surpris aussi par l'ectoplasme, c'est-à-dire qu'en fait tu revois effectivement une recréation numérique d'Harold Ramis, parce que Harold Ramis est mort, il nous a quitté en 2014, donc il pouvait pas être dans le film, fatalement. Le film s'ouvre sur la mort de son personnage, et ça il faut le dire aussi, hein, c'est la toute première scène du film où pour le coup on joue sur vraiment les ombres, en fait, voilà, pour qu'on, et c'est une doublure pour pas qu'on le reconnaisse, donc tu te dis, est-ce qu'ils... Bon, comme ils n'ont pas vu l'acteur, comment ils vont jouer le coup, mais c'est vraiment pour faire le reveal à la fin. Ça, faut le préciser. Et ce reveal, il fonctionne pendant 20 secondes, où tu te dis, ah putain, c'est surprenant, tiens, ils ont réussi à le recréer.
C'est les images d'archives qu'ils ont prises.
Hein. Ah oui, ouais. Oui, mais c'est... En tout cas, ça fonctionne pendant 20 secondes, et alors après, ils en surjouent,
oui,
pendant une scène d'un quart d'heure, quoi, t'as l'impression.
Ça fonctionne émotionnellement, parce que, bah, en gros, tout le film est construit autour de la redécouverte de cette gamine, par cette gamine de sa filiation, hein, de son grand-père. Pour moi, les meilleures scènes du film, elles sont là. Elles sont comme par hasard, dans des effets très visuels, c'est-à-dire de la mise en scène. C'est-à-dire que c'est, alors, rien d'original, hein. Il y a un échiquier dans sa chambre. Elle déplace, elle range bien les pièces et elle s'aperçoit qu'un fantôme est en train de jouer. Du coup, elle se met à faire une partie avec ce fantôme alors qu'elle croit pas au fantôme. Ensuite, il y a des lumières qui s'allument et qui semblent lui indiquer un chemin, et donc elle va découvrir le laboratoire en suivant ces lumières qui s'allument les unes après les autres. Ça, c'est vraiment typiquement un truc qu'on aurait pu voir en 1985 dans un film d'époque. Et il y avait un autre effet comme ça qui m'avait plu, et là qui me revient plus. Qui joue aussi sur la suspension d'incrédulité, où elle a des petites lunettes rondes, et en fait en découvrant les lunettes de son grand-père, elle s'aperçoit qu'elle porte le même modèle. Bon, il se trouve que le modèle est exactement le même, ce qui pour une tête d'adulte par rapport à une tête d'enfant ne fonctionne pas, mais c'est pas grave, parce qu'en fait on est là pour comprendre visuellement la filiation, et donc bah du coup ton émotion elle est créée à ce moment-là, et c'est pour ça que au moment où finit par apparaître à un moment crucial le fantôme ectoplasmé, ben ça marche, mais ça marche effectivement pendant 20 secondes, sauf qu'après on te sort les violons parce que t'as les original Ghostbusters qui sont de retour, qui du coup retrouvent leur copain, et c'est à la fois les Ghostbusters qui retrouvent leur copain mort et les comédiens qui retrouvent leur ami décédé récemment.
Et en fait, si tu veux, il y a ce truc où il y a une espèce de... En plus, quand tu connais un petit peu l'historique en fait de ce groupe, déjà tu te dis, je pense qu'ils auraient pu trouver quand même quelque chose d'un peu plus, comment dire, original. Si tu veux, avec l'univers des SOS fantômes, en fait, pour faire revenir Harold Ramis. Tout ce que Rafik dit, c'est très sympa, c'est vrai, mais c'est vrai que là, il y a un truc de, on rend hommage directement. Moi, je trouve que l'hommage, par exemple, de Bellucci, il était idéal, quelque part, en fait, dans le premier film. C'est vraiment quelque chose, et je pense qu'en fait, si c'était un petit peu creusé la tête, plutôt que de chercher la nostalgie à tout prix, ils auraient pu trouver quelque chose de similaire, en fait, parce que, finalement, l'univers ectoplasmique le permet, quoi. Or, cet univers-là, dans le film... En fait, il n'existe que à part le prisme du premier film, quoi. C'est-à-dire que vraiment, en fait, tous les fantômes que tu vas voir, il n'y a pas de vraie nouvelle créature, parce qu'en fait, elle n'existe que pour renvoyer une créature qui existait auparavant, même si c'est pas la même, c'est pas Bellucci, c'est un simili, quoi. Ou en fait, c'est Gozer, c'est les Puff Marshmallow, c'est des trucs comme ça. Et s'il y en a une, alors je m'en souviens pas, mais en tout cas, elle m'a pas marqué. Et le problème derrière tout ça, c'est que oui, moi, il y a ce truc, en fait, qui pour le coup, et ça, c'est de la nostalgie. Porn, en fait, tel que ça se pratiquait il y a 10 ans, quand on faisait des référents, quand J.J. Abrams faisait Super 8 ou ce genre de choses, quoi, c'est impérativement aller chercher les vieux briscards, impérativement faire ce genre de trucs et tout, et là, c'est un problème, en fait. C'est-à-dire que moi, voir Bill Murray, qui je pense n'en a rien à foutre, qui revient pour la deuxième fois, parce qu'il était aussi dans le remake de 2016, hein, et je crois que Dan Aykroyd était aussi.
On a réussi à faire toute l'émission sans parler de la version de 2016.
Non, mais c'est important, parce que je pense que cette version existe aussi à cause de l'échec artistique, en fait, de la version de 2016. C'est-à-dire que moi, c'est un film qui a été unanimement détesté avant de sortir, parce qu'il y avait ce
non, après aussi, hein.
Ouais, mais avant, ouais. En tout cas, il a été nommé, je crois, enfin, vidéo sur YouTube.
C'était la pire bande-annonce.
La pire bande-annonce. Sur le simple fait de féminiser la logique, quoi. En soi, le problème, c'est pas de féminiser SOS Fantôme, quoi. C'est juste que dans le film, ça fonctionnait pas, quoi.
C'était le mépris total pour son public, surtout qui était monstrueux.
Ouais, quoi. Je sais pas, après, c'est parce qu'en fait, après, il y avait une logique. Moi, Paul Feig, c'est un réalisateur que je trouve intéressant pour le coup, même si c'est pas un grand réalisateur non plus de comédie à proprement parler, c'est-à-dire d'un point de vue de mise en scène, quoi, mais en tout cas d'un point de vue de c'est un mec qui a un ton, qui arrive à trouver en général. Là, c'est pas le cas, en fait, sur ce SOS Fantôme là et donc ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que moi, je le jette pas, c'est pas un bon film, le SOS Fantôme de 2016, mais je le jette pas aux orties non plus, voilà, quoi. Il y avait plein de problèmes, mais surtout, c'est le premier étant, pour les gens qui font ce fantôme-là, de dire on ne fait pas ça. C'est-à-dire littéralement, on ne fait pas ça. Et du coup, en gros, on fait quoi? On fait le premier. Sauf que le premier, c'était il y a 35 ans, presque 40, ils sont vieux, bedonnants, etc., etc., et que ça fait un peu de la peine, moi, je trouve, de les voir dans ces guenilles, en fait, et revenir à des gloires passées pour apparaître, faire les guest stars, en fait, 5 minutes à la fin, et surtout dans un empilement. C'est-à-dire que il y a ne croisez pas les effluves, ils te le sortent dans le truc. Il y a le rapport à Harold Ramis, et quand tu sais quel est le rapport entre Bill Murray et Harold Ramis, c'est quand même dommage de pas lui avoir donné, là, émotionnellement, en fait, si tu veux, le vrai moyen de lui dire au revoir. Et plutôt que de le coincer dans tous ces trucs-là, tu vois, dans le rapport aux autres, quoi, parce que il faut savoir que Bill Murray et Harold Ramis se sont très malentendu sur Un jour sans fin, même si ça ne se voit pas quand tu vois le film, quoi, parce que le film est formidable, quoi, et que en fait, quand Rami est mort, Bill Murray s'en est vraiment voulu d'avoir été un connard en fait avec lui pendant tout ce temps-là, et il a fait son mea culpa public, c'est-à-dire dans des one man shows, dans des trucs comme ça, en disant j'étais un con. C'est ouvertement, donc ça aurait été joli de lui donner une porte de sortie fictive là-dedans, quoi, ce qu'ils ont du mal à faire, quoi. Et alors après, bon, bah, moi je te parle pas des easter eggs dans le générique de fin où ils te font revenir Sigourney Weaver, où ils transforment le personnage d'Ernie Hudson, tu sais pas ce qu'ils en font là.
Le truc avec le personnage d'Ernie Hudson, ouais. c'est dramatique en fait, parce que dans le film original, il faut le dire, il sert à rien. Enfin, là pour le coup, c'était vraiment le token, quoi, à l'époque, le blague de service, quoi. Il en fallait un dans l'équipe, mais on savait pas quoi lui faire faire, et ça s'est vu au fil des années, bah, avec les revisions, de se dire bon, ils ont tous des caractéristiques très marquées, et puis l'autre il est un peu derrière à être le mec terre à terre, on va dire, qui voilà
le vrai prolo, et c'est ça qui est chiant en fait, de le transformer en homme d'affaires,
voilà, et du coup ils en font, voilà, ils
ouais,
en font
en même temps, ils l'assument. Il y a un moment quand même où dans le film justement il répond à une interview, il dit ouais, moi j'étais là finalement, et
certes,
mais
c'était à l'époque quand même déjà critiqué pour cette raison-là, tu vois, pour dire, quitte à faire entrer un, si vous voulez vraiment un token, essayez de le faire exister, quoi. Et du coup, là, dans ce film-là, il lui donne un arc, ouais, en se disant, ben oui, finalement, il faut quand même que ce personnage soit un rôle modèle, et donc prouver que, en partant de rien, on peut devenir quelqu'un, etc. Et on t'amène ça en toute fin de film, ça a rien à voir avec le reste.
À la fin du générique.
Et là où ça devient vraiment cruel, c'est que les gamins de cette nouvelle version sont censés être des répliques des personnages auparavant. Donc évidemment, la gamine, c'est la réplique d'Harold Ramis. Podcast, c'est la réplique de Dan Aykroyd. Il est aussi excité par le surnaturel, etc. Finn, le grand frère un peu dragueur, bah du coup, ça devient, c'est plus ou moins, voilà. Et la nana Black qui sert à rien dans l'histoire, elle remplace le personnage d'Ernie Hudson. Et là, tu fais putain, mais vous êtes en train de refaire la même erreur deux fois de suite, et tout en nous faisant croire que vous corrigez celle du film de 84. Donc, je trouvais ça un peu.
Enfin, en tout cas,
ironique et cruel, quoi.
En tout cas, ce qui est certain, c'est que voilà, le problème, c'est que c'est un film qui, pour moi, commençait de manière assez intrigante et qui finit par donner un sale goût dans la bouche, parce que j'ai l'impression qu'on me drague ouvertement, moi qui suis un amateur du film original, en fait, et qu'on me dit, mais t'as vu, on a remis Sigourney Weaver, et t'as vu, tu te rappelles cette scène, en fait, où on introduit Bill Murray quand il est en train de jouer avec les cartes et on l'électrocute et tout ça, etc., etc. Bon, il était pas cool, hein. Donc, on lui fait un peu payer
on lui rend la monnaie de sa
petite méchanceté. T'as envie de dire, mais moi, je l'aimais bien quand il était méchant. C'est cool d'avoir un personnage qui est un peu méchant, un peu connard, tu vois.
D'ailleurs,
qui était pas,
à ce titre-là, il y a peut-être un truc qu'on n'a pas précisé pendant tout ce podcast qui est important, quoi, mais c'est pas drôle. Enfin, il y a pas beaucoup de moments de franche déconnade et de franche rigolade, justement par manque de personnages détestables, méchants, ce qui fait un peu le sel de la comédie. En fait, on est plus proche de l'esprit d'un dessin animé. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je crois que le coup du siège éjectable rallongeable,
c'est très cartoon,
c'est un truc qui, à mon avis, devait être dans l'adaptation animée des années 80. Et d'ailleurs, toute la deuxième partie du film, c'est presque pratiquement de ce niveau-là. C'est pratiquement ce qu'on aurait pu trouver dans un dessin animé de l'époque, quoi.
Voilà. Donc, en gros, c'est, moi, mon souci, il est là. C'est-à-dire qu'en fait, on part vraiment dans un truc où tu te dis, tiens, ça pourrait être pas mal. C'est, voilà, ça mériterait d'être un peu resserré. Ça mériterait d'avoir un peu plus d'humour. Ça mériterait de, voilà. Mais au moins, ça essaye d'avoir sa propre identité. Ça essaye d'être dans la continuité de ce que ça raconte. Et puis, d'un seul coup, ils se sentent obligés de revenir vraiment dans, cette façon de citer automatiquement tout le temps, en permanence. Comment on va régler ça? Ah, ben, on va chercher dans le premier film. Tu vois, et puis exclusivement dans le premier film, hein, en l'occurrence, hein, même pas dans le deuxième ou dans quoi que ce soit, quoi. Donc du coup, je trouve que c'est un moins bon SOS Phantom 3 que le jeu vidéo qui était sorti il y a une dizaine d'années, où pour le coup il y avait vraiment en plus les acteurs qui reprenaient leur rôle et tout. Dans les jeux, ça se passait en 91, le jeu en fait, c'était un jeu entre guillemets historique, quoi. C'est pas un grand jeu, hein. Loin s'en faut, mais c'était basé pour le coup sur Hellbent, sur le scénar de Dan Aykroyd, et ma foi, tu vois, je veux dire, tu passais un bon moment, et je trouvais que c'était moins, il y avait cette nostalgie, il y avait ce truc de voilà, mais au moins ça se rend, parce que le jeu vidéo le permettait, t'avais pas l'impression de voir des gars qui sont dépassés par la situation, quoi, tu vois, c'est-à-dire que t'avais juste, c'était des voix, des acteurs, tout ça, etc., tu les reconnaissais, voilà. Encore une fois, hein, Je vais pas dire que je vais pas prétendre que c'était un grand jeu. Il y avait plein de trucs qui te faisaient revenir le Bibendum, Chamallow, etc., etc. Mais je trouvais que c'était finalement un peu moins. Là, tu sens la drague, en fait, c'est ça le truc. Moi, ce qui m'a
trop
vraiment
de fanservice.
Sorti. Ah ouais, mais c'est même plus que ça, en fait. C'est vraiment, en fait, qu'au bout d'un moment, tu balances tes idées juste, en fait. C'est-à-dire, la façon de faire revenir Sigourney Weaver, en plus, c'est assez étrange parce que quand vous regardez le film, c'est dans le générique de fin.
C'est post-générique.
Post-générique. Ouais. Et en fait, il y a Sigourney Weaver qui est écrit à l'écran, tu fais quoi? Tu sais, tu te dis, mais elle était où? Et puis hop, il te balance la scène, et là tu fais, mais elle est pourrie cette scène. Tu vois, enfin, elle est vraiment pourrie, c'est juste une scène de dialogue entre eux avec le...
J'ai trouvé la scène bof, mais j'ai trouvé ça marrant qu'il la fasse apparaître juste après qu'il y ait son
ouais,
écran.
Ouais, mais moi je trouve que ça rajoute à la déception en plus, tu vois, mais bon, voilà. Enfin, donc c'est... Et puis moi j'adore Sigourney Weaver, et je l'adore en plus dans le SOS Fantôme, je trouve qu'elle est super et tout, quoi, Donc voilà, c'est vraiment, en fait, pour moi, c'est ce arrière-goût, en fait, dans la bouche que ça laisse qui me fait penser que, ouais, j'ai vraiment, il y a des choses, il faut les laisser, en fait, là où elles sont, et il faut arrêter d'en
faut
parler.
Faut laisser Cynthia Millar là où elle est, parce que moi, ça m'a fait marrer aussi, parce qu'ils ont repris la musique d'Elmer Bernstein pour le premier film, hein, ils sont vraiment, enfin, le gars, j'ai plus son nom, le compositeur. Compositeur des films de Jason Reitman, mais il reprend pratiquement la partition telle quelle, quoi. Mais il est carrément allé chercher Cynthia Millar qui jouait de Londe Martenot, le fameux instrument un peu, voilà, qu'il y en a pas beaucoup sur Terre qui savent jouer de cet instrument-là. Mais quand j'ai entendu le truc et que j'ai vu dans le générique de fin Cynthia Millar, je me suis dit, mais elle a 124 ans, la meuf. Je sais pas quel âge elle a. Ils ont été la rechercher pour ça.
Non, mais moi, j'allais surtout dire, laissez mourir les franchises, quoi. Tu vois, c'est là, pour moi, c'est l'exemple même, quoi. C'est-à-dire que tu peux avoir un bon, comment dire, un bon point de départ, mais si tu te sens obligé d'avoir un cahier des charges en permanence. Au bout d'un moment, moi, tu vois, j'ai eu l'âge de connaître ça à l'époque, j'ai l'âge de voir ça aujourd'hui et ça ne marche pas sur moi, en tout cas.
Alors, reste à savoir si ça marchera sur le jeune public.
Pour
parce que moi, j'avais pas votre âge à la sortie de Ghostbusters. En fait, je suis née l'année de Ghostbusters 1. Donc moi, j'ai vu le 2 plutôt. Et mes gamines, j'aimais beaucoup, même si ça me faisait peur. Et là, je me suis retrouvée. Moi, gamine, bon, je m'identifie beaucoup au personnage de Phoebe. Mais au-delà de ça, je me suis dit, si j'avais vu le Ghostbusters d'aujourd'hui à l'âge où j'ai vu le numéro 2, je pense que ça m'aurait autant plu. Et je me demande vraiment, parce qu'on en a parlé avec Alain, si le jeune public aujourd'hui apprécierait ce genre de film. Et est-ce que ça va les marquer?
En tout cas, le film a marché.
En tout cas, pour l'instant, le film fonctionne.
Et puis, je pense que la porte d'entrée, de toute façon, c'est de draguer le jeune public aussi, puisque c'est les personnages principaux. Quoi.
Ouais, puis a priori, oui, c'est le public de ce genre de film, a priori. Donc, mais moi, je me pose la question, je serais étonné de voir effectivement les réactions. C'est soit trop daté, soit pas assez neuf, mais je sais pas. Enfin,
bon, bah, en tout cas, si vous voulez vous faire votre propre avis, SOS Fantôme est sorti en salle ce mercredi 1er décembre. Et on ne se quitte pas sans passer par la case répondeur. Le répondeur, c'est le moment où vous nous donnez votre avis sur le film du moment. Est-ce que vous avez adoré, vous avez détesté, vous n'êtes pas d'accord avec nous, vous voulez nous le dire? Eh bien, n'hésitez pas. Pour ça, c'est très simple. Il suffit de retrouver Capture Mag sur Messenger et de nous laisser un petit message vocal. On le diffusera dans la prochaine émission. La semaine dernière, vous avez eu droit à deux films pour le prix d'un, hein, bande de vénards. On vous a parlé du nouveau Resident Evil réalisé par Johan Roberts, mais aussi de House of Gucci, le dernier Ridley Scott. Allez, on ne fait pas durer le suspense plus longtemps, on écoute tout de suite ce que vous en avez pensé.
Salut l'équipe. Bon alors, House of Gucci, allez voir The Last Duel. Ciao.
Bon, salut tout le monde, là je sors de Resident Evil, j'aurais mieux fait de rester chez moi, jouer à la console pendant 2 heures au lieu d'aller voir ce film. Franchement, pas grand chose à retenir, à part la musique qui est plutôt pas mal, le reste c'est vraiment catastrophique. Donc restez chez vous et jouez à la console. Ciao.
Petite réaction suite à House of Gucci. En 2013, il y a le film Cartel qui est sorti. En 2017, il y a le film Tout l'argent du monde. Et en 2021, House of Gucci. Entre temps, il a sorti pas mal d'autres films. Mais ces trois films abordent la même thématique. La thématique de l'argent et de la manière dont cet objet peut détruire des couples et des familles. Ridley Scott, dans cette trilogie dramatique, émet l'idée que l'argent, effectivement, détruit les couples, les familles, mais aussi l'art.
Bonjour à toute l'équipe de Capture Mag. Je n'ai pas vu Resident Evil, je n'ai pas vu House of Gucci, que j'irai voir ce week-end. Votre critique de Resident Evil m'a donné envie de rejouer aux deux, donc je l'ai téléchargé pour y jouer. Je vous envoie surtout ce message pour vous remercier pour tous vos podcasts que j'écoute quand je me promène, quand je vais sur les tournages, justement, avant d'aller au boulot. Et voilà, donc merci à vous et continuez comme ça, c'est génial.
Sale temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Rafik, Stéphane, merci.
Merci Clémence.
Et merci Alain à la régie.
Merci.
Et puis merci à vous qui nous écoutez et qui êtes un petit peu plus nombreux chaque semaine. Si vous nous découvrez aujourd'hui, pensez à vous abonner pour ne rater aucun épisode à l'avenir. Si cette émission vous a plu, vous pouvez aussi nous donner un petit coup de pouce en contribuant à notre Patreon. Pour ça, rendez-vous sur patreon.com, mot-clé Capture Mag. Ça nous permettra de rester indépendants et de développer de nouveaux programmes. Et puis, il y a plein d'autres manières de nous soutenir. Vous pouvez parler de nous à vos amis, mettre des étoiles sur les applis de podcast, nous suivre sur YouTube, faites-le, on vous attend. Ça tombe pour un film, c'est fini. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.